Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Louis. Pépite.
Pépite.
Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème.
Moi, j'ai fait des manifs très jeunes. Aujourd'hui, j'en fais franchement moins. Parce que, en fait, je participe autrement. C'est-à-dire que mon travail en lui-même est une manif.
Sur l'affiche du spectacle de l'humoriste Walidia, on découvre son visage. La tête haute, les yeux fermés, comme apaisé. Un visage tatoué de mots et de dessins. Dans son cou, on peut lire « Macron, c'est comme un père alcoolique. À la maison, il te pourrit la vie. Dehors, il te fout la honte. » À cause de ces mots, de cette blague, les affiches de son show « Une heure à tuer » qu'il joue à Paris ont été retirées des couloirs du métro par la RATP. Pourtant, il est l'un des humoristes phares de France Inter, des millions de vues en ligne, mais toujours persona non grata, selon lui, dans l'espace public. J'ai retrouvé Walidia au bar du Théâtre de l'Œuvre, bien trop tôt pour un verre, mais ça ne nous a pas empêchés de parler de la place qu'on nous laisse ou que l'on doit arracher lorsqu'on est racisé, de rébellion, du pouvoir des mots et de la colère qui semble s'apaiser quand elle permet de communier avec un public à ça de se politiser. Walidia, celui qui rêve d'une révolution, ça commence. Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite, le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain.
Bonjour, ça va?
Tu vas bien?
Ouais, très bien. Merci d'être disponible aussitôt.
Ouais, des taux.
Alors, on trouve la place, on peut. Ouais, là, c'est bien.
Des chouquettes?
Ça va, j'ai là, c'est gentil.
Comment t'as compris que t'aimais ça, les mots, jouer avec, et que en fait, soudain, ça te donnait aussi du pouvoir, une autre forme de pouvoir, peut-être.
Ça s'est fait par étapes, je pense. Déjà, c'est à l'école, où simplement, j'ai vu que le simple fait d'avoir du vocabulaire te dispensait d'apprendre plein de trucs. C'est-à-dire que j'avais vite compris que qu'être un peu littéraire dans tes rédactions, etc., bah, en fait, le blabla était plus ou moins apprécié par les professeurs, et comme moi j'avais une sacrée flémingite à ce niveau-là, bah, je me suis dit c'est juste besoin de lire des trucs, d'apprendre des nouveaux mots, de placer ces nouveaux mots, et ça donne l'air que j'ai compris. Bon, tant mieux. Ça a pas duré longtemps, parce que dès qu'on est arrivé dans les études supérieures, ils ont dit allez, range-moi ça. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, t'as écrit plein de trucs, mais ça veut rien dire. Donc c'est là aussi où ça m'a remis une autre claque, où je me suis dit bon, ça suffit pas de juste les manier, il faut comprendre des concepts. Puis après, dans l'humour, je me suis rendu compte tout simplement que tu ne fais rire qu'avec les mots que tu connais. Donc plus t'en connais, plus tu seras précis, plus tu seras intéressant. Et plus tu seras drôle, parce que l'humour, ce n'est qu'une surprise par le verbe. Donc si tu crées des phrases et des mots qui sont originales et rarement entendus, c'est là où ça fait rire. En fait.
Est-ce que tu peux nous décrire la maison de ton enfance et tes parents?
Mes parents, ils se sont séparés très tôt. Donc, en fait, mon père, il vivait... c'est marrant parce qu'on approche de ça, au village olympique de Grenoble. Donc, tu sais, ces bâtiments où on dit, ouais, on va faire des trucs après. T'inquiète pas, on va faire des trucs. On va faire... ouais, la piscine, ouais. Ah, ça va être trop bien, vous allez voir. Mais les murs, ils font 2 cm d'épaisseur. Ouais, non, mais c'est... après, on va voir après. Le après, il n'arrive pas, évidemment. Et ma mère, elle était dans la banlieue grenobloise, mais de l'autre côté, dans un quartier beaucoup plus cool, plus classe moyenne, quoi, tu vois. Et c'était ce qu'on appelait les maisons en bois, parce que c'était du bois dessus. Donc, j'ai toujours l'impression que ça allait cramer, ces trucs-là. Et en fait, c'était des logements sociaux, mais pensés en maison. Ce qui était vachement plus intéressant, puisque tout le monde avait un petit bout de jardin, avait un petit truc. Et donc, j'aimais bien. Enfin, je ne savais pas à la base que c'était ça, mais moi, j'adorais. Parce que moi, j'avais une maison et un jardin, quand même. Mes parents, c'est des révoltés à leur sauce. C'est des révoltés culturelles, c'est des révoltés politiques, c'est des révoltés dans le travail. C'est des gens qui se sont construits face à plein d'adversités. Mon père qui arrive du Sénégal, ma mère qui arrive d'une famille très catholique de campagne. Voilà, il y a des socles complexes desquels ils arrivent et ils ont dû s'en extraire. Quand je vois ce qu'ils ont réussi à accomplir avec les conditions qui leur étaient données, moi, j'ai pas le choix. Il faut pas que je gâche le temps qu'ils ont investi en moi.
Comment eux, ils voient justement ton ascension, tout ce succès?
Ce qui est bien, c'est que ça a été progressif. Ça a été super progressif. Moi, j'ai commencé en 2011-2012. Donc, ça date maintenant. Ils sont habitués, en fait. Mais non, je pense qu'ils sont contents parce qu'ils me voient heureux. Ils sont contents parce qu'ils me voient défendre des choses auxquelles ils croyaient eux aussi. Donc, ils y croient toujours, d'ailleurs. Mais il y a un apaisement, peut-être un peu de fierté de temps en temps, peut-être un peu de peur aussi. Mais c'est très bref parce qu'on se parle beaucoup.
Ta première fois sur scène, tu t'en souviens?
Ouais, c'était à Nantes, dans la cave d'un bar. On n'avait pas des beaux théâtres avec des miroirs au plafond. On avait des vieilles caves avec des chaises de camping. Mais c'est, voilà, c'est là où on fait nos classes, c'est là où on s'entraîne, c'est là où on se casse la gueule, c'est là où on prend des bides, c'est là où on essaie d'attirer l'attention de gens qui sont déjà à 5-6 bières. Et j'adorais ça. Je changerais rien à ces débuts-là.
T'avais peur?
Non, je crois que j'étais inconscient. J'ai eu plus peur, si on prend là, toute, on va dire, ma carrière depuis le début, j'ai eu plus peur au milieu. C'est-à-dire qu'au début, j'étais inconscient, complet, de ce qui se passait. Donc en fait, quand ça a commencé à devenir sérieux, c'est là où je me suis dit, ah, si je loupe cette opportunité, est-ce que je vais pas me mordre le genou toute ma vie? Parce que c'est quand même un beau métier, avec un nombre incalculable de privilèges. Et j'ai moins peur, que ça s'arrête et compagnie, parce que je sais que je peux vivre ma vie en jouant dans des salles de 100 places. Donc ça m'a rassuré. Évidemment, aujourd'hui, on fait 10 fois plus, mais au moins, je sais que si ça redevient à l'échelle 1 de ce métier-là, bah, je serais quand même heureux parce que je pourrais le faire. Et en plus, je pourrais en vivre. Donc, j'ai plus de raison d'avoir peur de ce côté-là. Je sens bien qu'il y a un super accueil et tout. Je ne suis pas insensible à ça. Mais pour moi, en fait, c'est une pression supplémentaire. C'est dans le sens où, une fois passé ce plaisir peut-être de me voir en vrai, qu'est-ce que j'ai à proposer, quoi. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je prends pour acquis. Et au contraire, je me dis, oh, oula, plus ça crie fort au début, plus il va falloir avoir du matos et du répondant parce qu'il faut combler l'attente. J'aime cet instant de vérité qu'on vit avec le public à ce moment-là, où vraiment je sens qu'on peut tous dire. On peut tous dire, et y compris ce qui va pas, surtout ce qui va pas. Mais le fait qu'on soit réunis pour s'en parler fait que ça va. Ça veut dire qu'on est beaucoup. On est beaucoup à se connecter à ce niveau-là et à comprendre ces choses-là, parce que je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à quelqu'un. Je compile les choses et je fais un état des lieux qui serait déprimant si on le vivait tout seul. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a 300 personnes tous les soirs ici. Et ça veut bien dire qu'on a quelque chose en commun, qu'on a une réflexion qui regarde à peu près au même endroit. Et c'est ça le vrai point positif.
Dans ton spectacle, tu parles pas beaucoup de toi personnellement. Il y a une scène. Tu racontes ton enfance plutôt à la campagne, je dirais. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que tu peux raconter ce moment ?
En fait, au départ, je dis que je suis solidaire des agriculteurs parce que moi, je suis un peu campagnard. Et je sens que le simple fait de dire ça, il y a comme un « Ah bon ?» Il dit, mais quoi, c'est quoi la cité, la drogue, les pistolets, j'ai pas le droit aux pâquerettes. J'ai pas le droit à ça, moi. Si je suis dans un champ, c'est juste parce qu'il y a du coton. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, bah, évidemment, c'est romancé, hein, mais c'est que je me suis retrouvé sur le tracteur de quelqu'un, et ça lui a pas plu du tout. Ce que j'ai ressenti, c'était que dans ses yeux, il y a eu du mal à me considérer comme un enfant, parce que j'étais un enfant quand c'est arrivé. J'ai senti un truc de, je suis un gamin, moi. Pourquoi tu veux pas m'accorder ça? Et à l'époque, j'étais pas du tout en train de me dire c'est parce que j'ai cette peau, c'est parce que truc, mais je sentais que, ouais, là, à ce moment-là, j'étais plus considéré comme un enfant. Quand je revois ce qui s'est passé, je me suis senti con déjà parce que j'avais rien à foutre sur ce tracteur, parce que j'étais sur le tracteur de quelqu'un, donc j'avais rien à foutre là. Donc j'étais en faute, quand même, hein, faut pas oublier, mais. Voilà, t'as la circonstance atténuante de l'enfant, t'es un enfant. Et j'ai ressenti ce truc de, et je crois que c'est un peu général, d'absence de droit à l'erreur. D'absence de droit à l'erreur. Et encore une fois, à cette époque-là, je savais pas à quoi c'était lié, ce droit à l'erreur-là. Mais cette espèce de culpabilité instantanée que t'as, tu es là, dans cette position-là, tu es forcément coupable. T'es supposément violent, voire bestial, puisqu'il y a eu tout un travail scientifique pour les conditionner à l'état d'animal. Donc, c'est quelque chose qui reste. Mais bon, voilà, c'est toutes ces couches et ces sous-couches-là qui amènent au fait que tu es présupposé un être physique d'abord, avant d'être quelqu'un de réfléchi et avec un pouvoir décisionnel. Tu es d'abord physique.
Dans l'air du temps là, actuel, qu'est-ce qui pourrait pas te mettre en colère, mais en tout cas créer de la frustration et de la réflexion aussi?
Tu sais, moi j'ai cette double vision où soit tu compiles toutes les informations qui te donnent envie de te tirer une balle dans la tête et tu te dis à quoi bon. Et puis en même temps, quand tu regardes l'histoire de l'humanité, on a traversé pire que ça. Pire que ça, évidemment que si on laisse faire, si tout le monde continue à courir après son petit intérêt personnel, il ne sera pas intéressant pour personne. Moi, la seule chose que j'ai trouvée, c'est d'en rigoler, parce que sinon, je pense qu'il y a peut-être un plomb qui saute à un moment donné. Mais voilà, c'est peut-être participer à cette prise de conscience. On sent que parfois, il y a une espèce de mécanisme d'anesthésie qui se sont mis en place pour que les gens soient dans une apathie face à tout ce qui se passe. Apathie qui peut être légitime, hein. Je connais la vie des gens, je suis un Jean. Donc je sais que parfois on n'a pas justement le temps de s'intéresser à tous ces phénomènes-là. Et peut-être que je suis là pour ça. Remettre cette petite pique-là, cette petite goutte d'eau-là, réactiver des choses qui sont dans les cerveaux de tout le monde. Je ne suis pas complètement naïf, hein. J'imagine bien qu'on va au-devant de grandes difficultés dans plein de domaines, mais je sens qu'il s'est passé quelque chose, dans la prise de conscience politique, dans le sens où la politique, je ne m'y intéresse pas, ça tient de moins en moins dans la tête des gens, parce qu'ils voient bien que leur vie est directement impactée, et dire « je ne m'y intéresse pas », c'est juste laisser quelqu'un conduire la voiture, en fait. Donc, elle ira pas où tu veux, si c'est pas toi qui conduis.
Alors, la révolution, qu'est-ce qu'on dit?
Moi, je pense qu'il faut une révolution intérieure, déjà, dans la façon de fonctionner, la façon de consommer, etc. Je pense que ça joue là-dessus. L'individualisme peut aller dans l'autre sens aussi, hein. Ça peut être un truc qui se dit, ok, d'abord, je m'occupe de moi, de comment je consomme, comment je réfléchis, comment j'accepte certaines décisions politiques, et puis se tourner vers cette reconnexion. C'est plus ce terme-là que révolution, c'est reconnexion. Reconnais et reconnecte les gens, et tu verras que les problèmes sont plus ou moins les mêmes. Toutes ces fenêtres-là, elles sont importantes. Bon, la mienne, c'est le spectacle vivant, mais je pense que c'est ça. C'est ça, c'est la grande reconnexion pour moi, plus que, que révolution avec tout ce que tous les fantasmes qu'il y a de prendre les armes et de... Donc voilà, je pense que ça peut se jouer plus intelligemment que ça. Aujourd'hui, on a sombré dans un individualisme exacerbé partout, tout le temps. Tout est personnalisable pour moi, likez-moi, regardez-moi, c'est moi et moi. Et peut-être qu'on est arrivé un peu au terme de ça. On est allé au bout de ce truc-là, pour certaines personnes en tout cas. Et je crois que c'est ça que ça amorce. C'est ce truc de se dire, de toute façon, tout seul, je changerai rien.
Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média, co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. J'ai tourné cet épisode, il a été réalisé par le studio La Fugitive, avec une musique composée par Mickaël Lio. À très bientôt dans Pépite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.